Question d'Islam par Ghalib Bounchir. Aujourd'hui, nous parlons de politique et religion, de l'art de gouverner avec art, comment on gère les affaires de la cité, comment la police avec S est administrée, et il n'y a pas meilleur que la philosophe Céline Snoussi, universitaire, chercheur. Pardon, Céline Snoussi, je ne féminise pas les titres. Chercheur associé à l'Université Paris-Est Créteil, vous qui êtes une bonne spécialiste de ces questions-là. Votre thèse de doctorat a porté sur justement le fait de gouverner avec art. Et aussi étonnant que ça puisse l'être, les premiers temps de l'Empire monde, qu'était l'Empire islamique, et par la suite on pourra utiliser le pluriel, les empires, eh bien on n'avait pas gouverné selon le désir politique de Dieu, ou du moins on ne l'avait pas pénétré et on ne l'avait pas imposé aux administrés.
Oui, on peut dire cela tout à fait. En effet, dans les premiers temps de l'Empire arabo-musulman, apparaissent très rapidement ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle les arts de gouverner. Donc, ce sont des textes qu'on peut désigner aussi sous le vocable de miroir des princes, en empruntant une expression qui désigne plutôt les textes du monde latin, mais dont on peut trouver un équivalent dans cette tradition.
Spicula Princia, c'est-à-dire c'est le fait de voir, de projeter. Le conseil fait au prince, en réalité.
Le conseil, l'image du prince idéal également, les modèles de bons souverains sont à lire pour le prince, mais servent aussi, je pense, de modèles à la fois pour les conseillers qui sont présentés dans ces textes. On y voit également une idée de bon prince, mais également des exemples de mauvais souverains qui doivent servir effectivement à former le jeune prince, mais également à donner une bonne renommée à son règne, puisque s'il ordonne la commande de ce texte, ou si lui-même en écrit, il en ressortira une bonne renommée pour lui également. Ces textes donc apparaissent donc dès le 8e siècle, au moment où où apparaît vraiment un empire, c'est-à-dire un vaste territoire centralisé, dirigé par les souverains omeyyades. Et ce qui est manifeste dans ces textes, c'est qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de référence à une autorité religieuse ou à des textes canoniques qui devraient guider le souverain dans son gouvernement des hommes. Au contraire, ce qu'on lui propose, ce sont des modèles de souverains qui ne sont pas forcément musulmans. Ce sont des exemples de fables. Ce sont donc des textes qu'on pourrait dire séculiers, en fait. Pas très peu de références religieuses. Il faut dire également qu'à cette période donc très précoce, les hadiths ne sont pas encore compilés. Donc on n'a pas encore...
Les hadiths étant les aphorismes du prophète, les dires, les maximes. Oui, je le dis pour nos amis
tout à
auditeurs.
Fait. Cette tradition donc d'exemplaires prophétiques n'existe pas encore. Donc pour former les jeunes princes, ce dont on dispose en fait, c'est tout un répertoire de modèles et de lieux communs qui viennent en fait de l'Antiquité tardive et de diverses traditions. Ça peut être principalement c'est un fonds persan de l'empire sassanide qui précédait les musulmans qui régnaient sur beaucoup de territoires avant, enfin que les musulmans ont conquis. Mais on leur offre.
Par exemple, le testament d'Ardashir,
par exemple, c'est l'un des premiers textes traduits, ce testament d'Ardashir. Donc Ardashir est un grand souverain sassanide, fondateur de la dynastie sassanide. Et son testament est un écrit adressé à son fils, lui présentant un peu son gouvernement à lui, les préceptes qui pourraient le guider, mais également lui donnant beaucoup d'indications sur tout ce qu'il ne devrait pas faire, le mauvais roi, les mauvais conseillers dont il doit se méfier. Donc tout cela, bon, ça fait partie, ça c'est un exemple. On a d'autres textes d'origine persane, mais on a également, par exemple, les fables de Kalila et Dimna qui sont adaptées en arabe à cette époque-là, qui proviennent donc à l'origine de la tradition indienne qui est passée par le filtre persan. On a également, par exemple, la correspondance apocryphe entre Aristote et Alexandre le Grand qui va donner lieu à cet exemple, ce grand modèle de souverain qu'est Alexandre le Grand pour les Arabes.
Il y a aussi la Chiropédie ou Chiropédia, c'est-à-dire la pédagogie de Cyrus, aussi. Ce qui nous importe, et c'est l'intérêt de cette émission, c'est qu'aussi étonnant que ça puisse l'être, les premiers temps, il n'y avait pas d'interférence religieuse, voire un fond théologique pour gouverner la cité dans les contextes islamiques.
Non. Et ce qui est très intéressant, déjà, c'est que ça va perdurer, ce genre va perdurer. Non seulement dans les premiers temps, ce n'est pas disponible, mais on va continuer à produire des textes d'art de gouverner tout au long de l'histoire arabo-musulmane, jusque même au XIXe siècle. Les derniers textes apparaissent au XIXe siècle. Ce qui nous indique un petit peu que c'est une idée reçue, le fait que le politique en islam serait de nature théocratique exclusivement. On a de ce fait tendance à avoir minoré un petit peu l'importance de cette culture politique que véhiculent les arts de gouverner, qui présente en fait une culture séculière du pouvoir. Avec Jocelyne Daria parle de formulation athéologique du fait politique, où l'on voit que l'on fait droit finalement dans ces textes à l'exercice de la raison, parce que le souverain qui gouverne n'a que sa raison pour déterminer l'action correcte qu'il doit mener. Et pour exercer cette raison, eh bien, il lui faut des textes, des manuels de gouvernement, des arts de gouverner, des miroirs des princes, des exemples de situations dans lesquelles le ra'y doit s'exercer.
Ra'y étant l'opinion, la raison.
Le juge, même, le on jugement. Pourrait dire le jugement. Dans ces textes-là, ça désigne vraiment le jugement pratique et politique.
Vous parlez dans vos travaux, notamment, et à juste raison, si tant est qu'il me soit permis de cautionner vos travaux qui sont considérables, de la notion de tadbir, qui est de mettre un peu d'ordre, d'organiser. Ça peut être la maison, comme dans le cas de l'économie, et comme ça peut être aussi tout l'empire, comme un vaste foyer.
Oui, ce que j'ai vu apparaître en étudiant ces textes, c'est qu'on connaît le sens de tadbir comme gouvernement de la maison, économie, mais en fait, dans les premiers temps, ça désigne vraiment le gouvernement du prince, le gouvernement politique. On s'aperçoit que c'est le mot qui est disponible à ce moment-là, qui va désigner ce fait d'avoir à la fois à se conduire lui-même correctement et conduire les autres. C'est ce qui correspond véritablement à la définition de gouvernement, par exemple, telle que Michel Foucault a pu la définir et que je trouve effectivement assez bien, en tout cas dans les textes du début, rendus par le terme de tadbir.
Et n'oublions pas que gouvernement a aussi un lien avec le gouvernail qui fait que le bateau puisse aller de l'avant, entre autres. Une chose aussi importante que le gouvernement des hommes, à en croire Montesquieu, n'est pas bien précisée ni dans l'enseignement prophétique, et d'ailleurs, vous l'avez à juste raison dit que ça n'a le corpus second, donc qui rassemble, qui collecte la parole prophétique, n'était pas encore stabilisé, et encore moins dans la référence première qui est le Coran. Donc forcément, on laisse place à la fois à la raison, mais aussi on fait appel au fond commun de l'humanité.
Oui, tout à fait. Dans le Coran, il y a bien des exemples de souverains qui gouvernent. Le pouvoir est bien donné aux hommes, justement pour gérer les peuples et les cités. Mais en fait, il n'y a aucune précision sur comment on va gérer un empire qui se constitue. Une administration, des centres urbains, des modèles tout à fait différents finalement du premier modèle de la conquête, en fait, islamique. Et effectivement, dans ces textes, on a tout de même quelques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout de références religieuses. Il y a des exemples qui sont tirés de souverains musulmans qui sont cités en exemple. Plus on avance dans le temps, plus en fait, au premier modèle, avec Ardashir, Alexandre, ou le roi Sapor, ou les rois indiens, vont s'ajouter des exemples de souverains musulmans vertueux ou au contraire.
Parce qu'il faut bien consacrer la cohésion et l'action politique par un principe transcendant.
Oui, alors c'est une justification, je pense. C'est la justification
a posteriori.
En fait, il faut bien dire, quand un souverain désigne son fils comme son héritier, Alors, on a l'exemple dans l'épître de Abdelhamid El-Kateb adressée à son fils, donc Risale ila Wali El-Ahd, qui a été donc...
Qui est une sorte d'épître, au prince héritier, voilà. Et on est à la fin de la dynastie Omeyyade.
Oui, c'est le dernier souverain Marwan qui écrit un texte, mais avec la main et la plume de Abdelhamid El-Kateb, à son fils Abdallah. C'est un écrit un peu de circonstance, il l'envoie combattre des Kharijites, et il lui donne un peu une sorte de compendium à la fois qui contient une éthique de soi, mais aussi effectivement de la stratégie militaire un petit peu. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est par exemple quand il désigne son fils comme son héritier dans les premiers paragraphes, il dit qu'il a été approuvé pour la succession par Dieu. Bon, comment on le sait ça? Il explique qu'en fait, c'est parce que parmi tous ses fils, c'est le seul qui a un bon naturel, qui semble avoir la patience, le bon jugement, la capacité à gouverner. Donc on voit bien qu'en fait, ce qui peut pour lui expliquer ce choix, il place l'argument divin, parce que finalement, le bon naturel, bon, il pense que ça vient de Dieu. C'est possible.
Alors, Céline Snoussi, que dites-vous? On va faire des va-et-vient dans le temps cette fois-ci entre la fin de la dynastie Omeyyade, nous nous rapprochons du milieu du 8e siècle, de 750, qui date de leur chute, et de cette prétention à gouverner selon le désir politique de Dieu et que le Coran serait la constitution de l'État moderne, comme le prétendent les frères musulmans. Quelle est cette idée de traduire dans le Coran même que ceux qui n'arbitrent pas ou ne jugent pas par gouverner, ceux qui ne gouvernent pas selon ce que Dieu a prescrit sont les mécréants. C'est qu'il y a, on a plié le texte au désir des fondamentalistes, des frères musulmans.
Dans le Coran, on peut y lire cela, comme on peut aussi sans doute y lire aussi des exemples de souverains qui ne sont pas musulmans, qui sont vertueux. Salomon, le roi David, ne sont pas des musulmans et sont bien jugés comme des bons rois. Et dans les miroirs des princes, dans les arts de gouverner, on va se saisir de cette idée-là qu'on aperçoit dans le Coran en présentant ces souverains comme étant de bons souverains. Donc, et même dans les textes, on va voir apparaître petit à petit, avec le temps, chez Nizam el-Mulk, chez Razali, des
phrases... Alors Nizam el-Mulk et Razali, d'ailleurs sont contemporains, oui. Et Nizam el-Mulk est le grand vizir, c'est le Djoukid.
Oui, tout à fait. Par exemple, des phrases comme « le gouvernement de l'incroyant vaut mieux que le mauvais gouvernement de l'homme rempli de foi », que par exemple 60 ans...
Pour que je comprenne, il vaut mieux obéir au gouvernant fut-il incroyant que d'avoir un gouvernant de foi au croyant alors qu'il est injuste.
Tout à fait.
Donc la notion de justice est beaucoup plus importante que la foi.
Dans ces textes, ce qui est très important, c'est la notion de justice. Donc dans toute cette... Il faut imaginer qu'il y a une énorme production d'art de gouverner puisqu'elle court donc du 8e au 19e siècle et maintenue cette idée que le plus important dans le gouvernement, c'est la justice. Et cette justice, elle est universelle. Les principes de la justice sont universels comme les modèles de souverains justes le sont. Ainsi, on cite Pharaon, par exemple, un exemple assez ambivalent. Dans certains textes, il peut être cité comme le bon souverain, pourvoyeur, bienfaisant. Il est aussi le Pharaon du Coran, le mauvais souverain. Les vertus de justice, d'équité sont des idéaux éternels que va véhiculer cette culture politique. Et ainsi, la royauté elle-même est une forme universelle, éternelle, qui passe à travers les siècles dans les dynasties. On a à ce sujet une petite référence que j'ai trouvée intéressante. C'est chez Ardashir, on la retrouve chez Farabi également, l'idée d'une âme universelle des rois.
Avec sa notion de philosophe roi dans la cité vertueuse.
Oui, tout à fait. On a cette idée qui est mentionnée qu'il y aurait une seule âme des rois qui s'incarne dans les différents souverains. Et elle est donc cette âme éternelle. Et donc les différents souverains appartiennent à toutes les dynasties qui se succèdent, même si elles peuvent être opposées, musulmanes, non musulmanes. On récupère cette idée d'une âme universelle pour donner au souverain la conscience de l'importance de sa fonction, qu'elle dépasse finalement les circonstances actuelles du temps présent et qu'effectivement, il doit chercher ses modèles et chercher à égaler les plus grands souverains dont la renommée dépasse les frontières et les temps.
Oui, alors d'autant plus, je vous pose la question, Céline Snoussi, que dans sa phase ascendante, l'Empire n'était pas peuplé que de musulmans. Donc le caractère cosmopolite des administrés, des sujets, des califes ou du roi, du sultan, le sultan, celui qui est doté ou qui a l'autorité, était tel que, comme ils n'étaient pas tous musulmans, on ne pouvait pas se prévaloir exclusivement et nécessairement d'une vision uniquement islamique pour les assujettir.
Oui, tout à fait. Et c'est exactement la fonction que l'on peut donner à ces textes, en fait. Ils sont aussi un véhicule qui permet d'agréger dans une même culture, puisque, en fait, tous ces éléments épars de l'Antiquité tardive sont rassemblés dans les textes arabes, dans une nouvelle culture, la culture arabe, qui rend disponible des modèles appartenant à des cultures indiennes, grecques, persanes, parce qu'ils vont justement permettre à différents groupes de l'Empire de s'identifier finalement au sujet et aux exemples qui sont donnés. Rappelons par exemple que la plupart des secrétaires de chancellerie, des hauts fonctionnaires de l'Empire Omeyyade et Abbasside également sont encore d'origine persane. Donc ils travaillent un peu pour eux aussi, pour incorporer la communauté à laquelle ils appartiennent. Le fait qu'on y trouve également cette correspondance grecque et tout l'exemple, grand exemple de la figure d'Alexandre et de son maître Aristote montre qu'on essaye aussi d'inclure et que vont pouvoir s'y retrouver les descendants des Grecs, de l'Empire byzantin.
Et cette correspondance, enfin ce texte apocryphe, la correspondance ou la relation épistolaire entre Alexandre et Aristote a servi véritablement comme base pour asseoir le gouvernement des hommes dans les contextes islamiques et avec ça a été utilisé davantage par les vizirs ou aussi par les califes.
Le texte, vous voulez dire?
Oui, ou le fait de s'en inspirer.
Il est difficile de le savoir. On connaît un peu le contexte de production de ce texte. Sa diffusion est très importante. Je pense qu'elle dépasse, et c'est le propre justement de ces textes d'art de gouverner, c'est qu'il dépasse la simple culture de cour. On va retrouver l'exemple d'Alexandre dans des contes, dans des poésies, dans des contes populaires. Les motifs des souverains ou des fables de Kalila et Dimna vont également dépasser le cadre strict du miroir des princes pour se diffuser, je pense au départ, dans tous les centres de pouvoir, donc ça peut être aussi les centres locaux, et petit à petit aussi dans une culture populaire. Donc ils servent pas forcément seulement à gouverner le peuple, mais également à présenter des modèles d'éthique de soi. En ce sens, ce sont aussi principalement des textes d'éthique politique, mais aussi d'éthique.
C'est-à-dire s'auto-gouverner soi-même pour être habilité à gouverner les hommes.
Tout à fait. Et en ce sens, le principal, ce que je vois apparaître, en tout cas dans les premiers textes, et je pense que ça demeure dans les textes suivants, c'est laquelle est la vertu première du souverain. On s'aperçoit que la vertu principale du souverain, la plus importante à cultiver, c'est le hilm.
La magnanimité.
Oui, qu'on peut traduire par magnanimité ou pondération. Parce que j'ai choisi pondération parce que la magnanimité désigne le fait d'avoir une grande âme et de pouvoir aisément pardonner l'offense.
Étymologiquement, c'est avoir une grande âme.
Voilà. Et donc, pouvoir pardonner les offenses, ça renvoie au fait pour le prince de savoir maîtriser sa colère, de ne pas s'emporter, de pardonner, d'être capable de pardonner. Mais il y a également l'idée d'être capable de contrôler sa pensée, mais également toutes ses émotions. Ça ne va pas seulement dans l'idée de contrôler la colère, mais aussi dans l'idée d'éviter l'indécision. Le prince qui a le helm est capable de prendre des décisions, magnanime, effectivement.
Et longanime.
Et longanime. On retrouve beaucoup l'insistance sur cette notion dans ces textes.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'universitaire Céline Snoussi, philosophe et chercheur associé à l'université Paris-Est Créteil, pour parler de l'art de gouverner ou de gouverner avec art, ça va dans les deux sens, dans les contextes islamiques et, je le répète, aussi étonnant que ça puisse l'être, du 8e siècle au 19e siècle, il n'y avait pas cette notion de gouverner selon le désir divin, selon une politique avec une collusion aussi directe avec la religion, même si les contextes étaient des contextes confessionnels, bien entendu. Et à ce sujet, Céline Snoussi, que diriez-vous à ceux qui disent « oui, mais il y a eu des califes qui se sont présentés comme l'ombre de Dieu sur terre ?»
Vaste question. Le discours est très important. La communication, on en parle de nos jours, mais à l'époque médiévale, c'est également un enjeu. On en parle sous le terme de la renommée. Le souverain doit viser deux choses, nous dit Ibn al-Khaldoun. Il doit conserver son pouvoir, viser à conserver son pouvoir, mais également l'embellir, yuzayinu hufennes. Et on voit là, en fait, j'utilise cet exemple parce qu'on voit bien les deux tensions de cette exemplarité que doit donner le prince. Il peut aller dans le sens d'insister sur la conservation du pouvoir et à ce moment-là, bien, chercher à inspirer la crainte. L'ombre de Dieu sur terre, c'est assez impressionnant. Ça, c'est une façon de faire. Ibn Muqaffa nous dit que c'est bien connu.
On est encore remonté dans le temps.
Oui, ce sont mes références principales, j'en suis désolée, mais je trouve que cela pose bien les questions qui vont se poser tout au long de l'Empire arabo-musulman et des différentes dynasties. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette tension dans le gouvernement entre la conservation du pouvoir et la bonne renommée. Et selon, finalement, le mode de gouvernement choisi, on va plutôt chercher à inspirer la crainte. Mais dans d'autres textes, on vous dira que c'est une mauvaise façon de gouverner. La plupart des miroirs des princes insistent sur l'idée que le souverain doit se faire aimer de ses sujets et pas craindre. Alors l'ombre de Dieu sur terre, ça peut être donné. Est-ce que ça donne vraiment de l'amour, ça inspire l'amour du souverain? Je ne sais pas. Pour moi, ça donne un peu l'idée d'inspirer la crainte, plutôt.
Oui, c'est chercher aussi une légitimité qu'on n'a peut-être pas pu acquérir par cette pondération, cette prudence, cette intelligence et cette maîtrise de soi, et notamment au moment de la colère, qui sont autant de vertus recherchées par cette édification qu'on a dans cette tradition de miroir des princes. Un mot peut-être sur le califat, Céline Snoussi. Le califat n'a aucune valeur sacrale. Non. C'est-à-dire qu'il n'a pas été ni annoncé, ni consigné par écrit, ni théorisé, ni par le Coran, ni par le corpus second qu'est le hadith.
Non, effectivement. D'ailleurs, on se pose beaucoup de questions sur l'origine de ce mot. C'est Abdelmalek qui apparemment a le premier cherché à imprimer une monnaie avec Khalifullah. On ne connaît pas d'autres occurrences.
Vicaire de Dieu sur terre, pour faire simple.
Oui, voilà, vicaire de Dieu sur terre, mais c'est pas si simple que ça parce que justement, on ne sait pas très bien ce que signifiait ce terme. Quand on regarde les occurrences dans le Coran, ça signifie plutôt la succession que.
Il n'y en a que deux occurrences, celle pour le roi David et celle de l'homme, l'homme archétypal, l'homme qui universalise l'humanité comme le tenant-lieu de Dieu sur terre.
Oui, et comme celui qui va permettre à des générations de se succéder. Mais ça, cela donne certainement du poids de chercher une approbation divine, en fait, en se présentant comme Khalifullah. Mais les opposants ne s'y trompent pas, généralement. Quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement de tel calife, on estime qu'il n'est pas vraiment désigné et qu'il n'est pas vraiment le vicaire de Dieu. Donc finalement, c'est certainement dans le discours, cela sert à justifier, mais cela ne donne pas de guide de direction politique réelle.
Bien sûr, et à un moment donné, il y a eu même 3 califes concomitants, le calife Omeyyade d'Occident, le calife Fatimide et le calife Abbaside. S'il devait en avoir qu'un seul, il y en a 2 de trop.
Donc c'était possible qu'il y en ait plusieurs, en fait. C'était une possibilité qui était offerte, puisque finalement, je pense que ça désigne, on peut le considérer que ça désigne la royauté dans le contexte islamique, avec des surenchérissements plus théologiques par moment, mais pas toujours. On peut pas y voir une spécificité réelle, je pense pas.
Alors Céline Snoussi, comment était organisé le pouvoir? Il y a le calife qui serait, j'utilise le conditionnel par précaution et c'est à vous de trancher dans le sens, à l'indicatif, un peu comme une sorte de guide plus ou moins spirituel mais détenteur aussi d'une parcelle de pouvoir temporel. Il y a le vizir, la charge du vizirat, c'est quoi? C'est une forme d'exécutif et puis il y a le sultan. Tout cela, on peut l'avoir dans l'Empire ou selon les situations.
Oui, bien sûr, on peut l'avoir. Après, dans les textes d'art de gouverner, on a surtout le sultan et son vizir ou son conseiller. Effectivement, le vizir est une sorte de grand gouvernant de administratif.
Un peu comme de nos jours, un premier ministre.
Un peu comme un premier ministre. Avec le temps, disons que cette fonction va devenir de plus en plus étoffée et importante. Dans les premiers temps, elle n'a pas autant d'importance. Effectivement, quand il y a un calife qui se distingue du sultan, on est déjà à une époque plus tardive que celle que je connais mieux. Mais effectivement, on a un prince et son conseiller en général. Alors un sultan et un vizir, un calife et un vizir. Ce qui est traité dans les arts de gouverner, c'est surtout cette relation entre le sultan et son conseiller, qui peut être un vizir, mais qui peut être également un conseiller moins connu, doté de moins de fonctions politiques. Et ce qui est pas théorisé, mais ce qui est présenté dans ces textes, ce sont de multiples exemples de conseillers et leurs princes. On a parlé d'Alexandre et Aristote. On a également les souverains, des exemples dans les couples de souverains et conseillers persans. Ce qu'on voit apparaître, c'est la difficulté de cette situation de conseil. Et elle est bien connue. En fait, on la retrouve un peu dans tous les miroirs des princes, dans toutes les contrées du monde, on va dire. Cette relation est compliquée par le statut même du prince qui est dans une cour entourée de courtisans et de flatteurs, dont le conseiller peut faire partie également, qui donc doit chercher à consulter les savants. C'est une obligation, on lui présente dans tous les miroirs des princes comme une nécessité de s'intéresser au savoir qui est disponible pour gouverner. Mais le problème, c'est que ces conseillers sont généralement rémunérés. Et vient apparaître dans certains textes ce problème de la difficulté de donner foi au conseil qui provient d'une rémunération. Donc on multiplie en fait cet exemple de conseil dans les différents miroirs, justement parce que je pense qu'il y a toujours le problème qui perdure de trouver un conseil franc, désintéressé. Et le souverain en a besoin parce qu'il ne peut pas être présent dans tous les lieux du pouvoir, de son empire. Il doit avoir des informateurs, il a des espions, mais pour prendre ses décisions concernant l'administration d'une rébellion ou d'un problème local, il peut parfois et même souvent avoir besoin de prendre conseil. Et donc la difficulté, ce à quoi je me suis plus intéressée, effectivement, c'est à ces difficultés de cette situation de conseil. D'une part, donc, les mauvais conseillers, les conseillers rémunérés. D'autre part, le problème, on y revient, de la colère du prince. C'est-à-dire qu'un conseiller honnête peut pouvoir délivrer un conseil désintéressé et franc, mais ce conseil peut irriter le souverain. Régulièrement, on a des mises en garde pour le souverain, lui disant qu'il devra s'habituer à entendre les propos acerbes de ses conseillers.
Même ce qu'on peut appeler une parénèse, une approche parénétique qui serait une forme d'exhortation, d'édification du prince. Et ça peut être désagréable pour le prince qui n'est pas habitué à entendre des mots aussi durs ou aussi francs en tout cas.
Et on peut même se demander s'il est parfois possible, tout simplement, même s'il y a déjà... Alors, il semble que ce soit encouragé, mais en même temps, on voisine également dans ces textes des recommandations aux conseillers de se méfier du prince. S'ils peuvent, chez Ibn Rafa, on le retrouve souvent, s'il peut même éviter d'être au service du prince en tant que conseiller, ça serait même mieux, puisque le pouvoir est un lieu dangereux.
Il n'y a pas cette idée que c'est comme l'âtre d'une cheminée. Si on s'en éloigne, on ne peut pas profiter de la chaleur, surtout par temps froid. Si on s'en approche trop, on va être brûlé. Donc il faut savoir tenir la bonne distance où on a le confort de la chaleur sans se brûler.
Oui, tout à fait. Il y a un peu cette idée, il y a même des exemples qui vont dans ce sens-là. On parle souvent du pouvoir comme une mère... agitée.
MER.
Oui, MER, comme une mer agitée, et donc le conseiller dans un vaisseau qui peut sombrer à tout instant. Donc ça, c'est un petit peu le problème du côté du conseiller, mais du côté du souverain, il y a un autre danger. À part la colère, il ne faudrait pas non plus que la consultation qu'il cherche se transforme en une délégation de pouvoir. Il y a toujours le risque que cela trahisse une aboulie, c'est-à-dire une absence de capacité à décider. Et ça, c'est mentionné également dans certains textes, qu'il devrait grandement se méfier de chercher conseil auprès d'un seul homme, plus savant que lui, auquel il serait tenté finalement de donner toutes les décisions à prendre et finalement ce qui se substituerait à lui. Et le cas, semble-t-il, dans l'histoire s'est avéré avec l'histoire de Haroun al-Rachid et Ja'far al-Barmaki, où l'on a là un exemple...
Alors on situe un peu, si j'ose dire, le panorama ou la scénographie. Haroun al-Rachid est ce calife abbasside et Ja'far de la famille de al-Barmak est son vizir.
Oui, et son vizir. Il était également apparemment son compagnon de jeu d'enfance, peut-être plus même devenu adulte. Le fait est que Haroun al-Rachid avait grande confiance en son jugement, partageait également tous ses loisirs avec lui, mais petit à petit, semble-t-il, lui a donné de plus en plus de pouvoir en tant que vizir, jusqu'à même, selon certaines chroniques, le laisser prendre toutes les décisions politiques. Bon, à un moment, la chute de Ja'far a été inévitable.
Il n'y a pas eu une histoire avec la sœur de Haroun al-Rachid aussi?
Oui, alors je me suis un peu moins intéressée à cette histoire, mais effectivement, il y a de considérables légendes qui tournent autour de ce duo.
Et c'est vrai que la chute de Ja'far était terrible, ainsi que de sa famille aussi.
Et toute sa famille également. Donc on voit là un exemple précisément de ce qui est prévu dans d'autres textes, c'est-à-dire le moment où le conseiller va se substituer au prince dans la capacité à décider et à gouverner. Donc le conseiller n'est pas décidé normalement.
Oui, c'est-à-dire que la capacité de jugement et de décision du prince lui est totale. Est-ce pour cela que par moment il multiplie ce qu'on pourrait appeler des logothètes, forme de secrétaire d'État, qui peuvent aussi l'orienter et le conseiller, mais in fine, c'est à lui de décider seul.
Oui, et petit à petit, dans le temps, le gouvernement va se spécifier. On va avoir des secrétaires plus consacrés au trésor, à l'armée, au gouvernement, aux désignations des ministres, à la gestion des provinces. Et c'est normal, puisque le gouvernement devient de plus en plus théorisé, on va dire, de plus en plus... spécifié, en cela, il va multiplier la consultation et donc les conseils reçus. Parfois même, dans certains textes, il y a des conseils contradictoires. Reprendre le conseil d'un seul homme en secret, ou alors prendre les avis de plusieurs conseillers individuellement, puis trancher ensuite. Mais ce qui est toujours répété, c'est que cette consultation doit lui permettre d'exercer sa délibération, d'avoir des exemples de possibilités auxquelles il n'aurait pas pu penser, et donc de trancher in fine. La solution peut être de se confier à un spécialiste ou à plusieurs conseillers. Cela dépend des périodes.
Alors, Céline Snoussi, vous avez évoqué à la fois Nizam el-Mulk, harmonie de la royauté au régime, ou l'harmonie du régime, comme certains veulent traduire, même si ce n'est pas tout à fait juste, et son contemporain et ami, dit-on, Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins. L'un et l'autre avaient composé des ouvrages. Le premier, c'est le Shah Nehama, un traité de politique, on peut peut-être le traduire comme ça. Et le second, c'est un ouvrage de conseil pour les rois. Et ni dans l'un ni dans l'autre, il n'y a de référence explicite, j'allais dire, à la loi de Dieu ou à la révélation ou des choses comme ça. Donc, on est encore, alors qu'on est au tournant du XIIe siècle, fin XIe, début XIIe, en train de gouverner d'une manière athéologique, pour parler comme vous. Ça me rappelle le traité d'athéologie de Michel Onfray. Oui. Mais en tout cas, à ce moment-là, on ne gouvernait pas, encore une fois, selon la volonté divine.
Alors, il faudrait peut-être se garder tout de même de penser que les arts de gouverner indiquent réellement ce qui se passait au niveau du gouvernement. On ne peut pas être aussi assuré que cela d'y déceler la description de situations ou de prises de décisions réelles et effectives. Néanmoins, on continue à cette époque-là de vouloir véhiculer une culture sultanienne du pouvoir, c'est-à-dire une culture séculière avec des références non exclusivement islamiques, même si dans ces deux textes, par exemple, et à cette période-là, on voit apparaître dans les textes de cette période-là, le réassignement des références par exemple le grec ou sassanide, on les met à ce moment-là dans des bouches de musulmans, Ali, Mohammed.
Ali étant le quatrième calife, gendre du prophète, le prophète lui-même, Mohammed. C'est vrai, Céline Snoussi, alors que diriez-vous à ceux qui disent « Oui, mais tout de même, on a eu quand même les statuts gouvernementaux d'un mawardi qui était à la fois juriste et parfois, dit-on, théologien ».
Tout à fait, mais lui aussi a écrit un Miroir des princes qui se situe dans la veine des textes d'art de gouverner et qui ne fait pas référence à ces textes. Ce texte qui relève, le statut gouvernemental, c'est plutôt un texte qui relève des ahkem, donc des textes de jurisprudence. Là, il faut bien comprendre qu'on est dans un genre complètement littéraire, complètement différent. Mais cela peut dire aussi qu'il y a plusieurs types de discours disponibles pour parler du gouvernement. Et ils ne concernent vraisemblablement pas les mêmes choses, puisque les statuts gouvernementaux vont concerner des textes vraiment plus juridiques, alors que dans le Miroir des princes, on retrouve l'éthique que doit cultiver le souverain.
Le droit, alors la norme juridique, forcément, surtout à une époque où les fondements du droit ont une source confessionnelle, donc on est dans une norme juridique enracinée ou ancrée dans la révélation. Ou pas nécessairement, je pose la question.
Je ne suis pas spécialiste du droit musulman, donc je ne saurais y répondre réellement. Mais ce qu'on peut noter, c'est que finalement, le pendant au niveau du droit de ces textes d'art de gouverner, c'est Jocelyne Darlia qui le montre un peu et qui, je pense qu'elle a tout à fait raison de voir dans la justice du sultan et donc dans l'exercice de rendre la justice publiquement, ce que font les souverains jusqu'au cœur du XIXe siècle. Il y a un jour dédié où les plaignants, quels qu'ils soient, peuvent aller consulter le souverain pour lui présenter une requête. Là, on a un exercice de la justice du souverain qui doit utiliser. Et à ce moment-là, il ne va pas forcément utiliser les canons juridiques disponibles pour trancher. Peut-être il le fait également, mais c'est le lieu d'exercice de son jugement, donc de son « là » dont on parlait tout à l'heure. Le pendant dans des textes de Miroir des princes, dans la réalité, peut-être c'est cette institution de la justice sultanienne qui perdure tout au long.
Quand il pouvait la rendre ou l'exercer lui-même, sinon il y a la délégation faite au cadi, à UX au pluriel, au juge, et parfois une sorte de juge suprême qui est Qadi al-Qudat, hein, le cadi des cadis en quelque sorte.
Effectivement.
Parce que selon l'étendue de l'Empire.
Mais ces qadis des Qudat ou ces qadis étaient également pétris de cette culture sultanienne, parce que finalement ces textes n'étaient pas que destinés aux princes, et ils étaient destinés à la formation de tous les lettrés petit à petit, en tout cas
Pour aller un peu plus dans. Ma question, c'est que ces qadis, ces juges, on est loin de la question de gouverner avec art, mais à ma connaissance, nous ne trouvons pas dans les chroniques des situations où on aurait lapidé une femme adultère, où on aurait, je ne sais trop comment, exécuté, il y avait des peines capitales avec des exécutions publiques, à tout va, comme nous le voyons maintenant. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une manière de rendre la justice qui était, pour l'époque, pas aussi, pardon pour le terme, spectaculaire et barbare comme on l'a vu ces dernières années, encore moins avec la monstruosité idéologique et religieuse qu'est Daesh, par exemple.
Oui, c'est bien peut-être parce qu'il n'y avait pas l'image, l'importance de l'image aujourd'hui.
Oui, mais les chroniqueurs peuvent rapporter.
Il semblerait qu'il cherchait aussi à éviter la fitna, la guerre civile. L'objectif du jugement était de maintenir une paix sociale. Je pense également que ça devait tenir à cœur de tous les juges de ces époques-là. On peut tout de même dire qu'il y avait du spectaculaire hein, dans les exécutions ordonnées par le souverain, mais généralement, cela concernait ses conseillers, les traîtres au sein de la cour. On pouvait, Jaafar, par exemple, a été décapité, ses membres dispersés, plantés la moitié du corps d'un côté du fleuve, l'autre moitié de l'autre côté du fleuve. Donc il y avait quand même un peu de spectaculaire, mais je pense qu'il était réservé, effectivement, à l'entourage proche du souverain.
Parce qu'il faut bien faire peur à la population aussi. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec la philosophe Sirin Snoussi, universitaire, chercheur associé à l'Université Paris-Est Créteil, et nous parlons de gouvernement, de l'art de gouverner dans les contextes islamiques. Et ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que au moins du 8e siècle jusqu'au 19e siècle, il n'y avait pas une collusion aussi explicite et aussi claire entre la théologie et la politique, comme on le verra plus tard, tout au long du XXe siècle, selon certaines théories, certaines idéologies. Et tout cela parce que, avec la tradition des miroirs des princes et la question de l'exercice du pouvoir dans les empires, quand c'était au pluriel et quand c'était l'Empire monde, il y a une manière de gouverner avec art, et c'est ce à quoi vous êtes intéressé, Sirin Snoussi. Comment, alors, selon vous, les choses finalement ont basculé dans cette prétention de dire qu'il y a une manière univoque, une doctrine politique contenue dans les textes sacrés de la tradition religieuse islamique?
Alors, c'est une vaste question, mais Une première idée qui me vient en y réfléchissant, c'est que je pense par exemple à Édouard Saïd et à ses explications. Il y a
sur l'orientalisme,
il y a eu, mais ça ne saurait être sans doute la seule explication, mais il y a eu un fait énorme au moment de la colonisation, une confrontation énorme et une vision que l'Europe, l'Occident, pour schématiser, a posé sur ce monde musulman qu'il redécouvrait. On a peut-être, à ce moment-là, les orientalistes ont peut-être surdéterminé ce fait théocratique. Cette fonction califale les a peut-être séduites. Et le fait peut-être de autant montrer, travailler, étudier cette question a peut-être finalement été reçu dans les sociétés colonisées comme étant leur assignation, leur désignation. Donc peut-être qu'à force d'avoir travaillé sur cela, d'avoir montré cela ou parlé cela, de cela, on a incité le monde musulman à se voir ainsi et à oublier peut-être en partie, une grande partie de l'héritage. Ça, c'est une explication. Ce n'est pas la seule. Il y a également la faillite un petit peu qu'on a pu observer des nationalismes post-indépendance.
Ça, nous parlons tout au long du XXe siècle, mais à votre connaissance, est-ce que c'est dans les contextes chiites, la notion du mandat du jurisconsulte qui, me semble-t-il, est récente, puisqu'elle ne date que de la moitié du XIXe siècle, est une innovation en réalité dans la gestion des affaires de la cité. Comment se fait-il qu'on a un faqih, un jurisconsulte, un mollah, un ayatollah, qui lui, subitement, se trouve être dans une situation de quasi-infaillibilité quand il s'agit de gérer les affaires de la cité, et de surcroît, il a la main basse sur la police et la justice.
Il faudrait poser la question aux spécialistes de l'Iran.
Et notamment du chiisme.
Du chiisme, peut-être qu'au départ, schématiquement, c'est la faiblesse peut-être d'autres moyens politiques laisse croître des formulations qui sont plus propres à susciter de l'adhésion des masses et à engendrer des grands soutiens populaires qui vont permettre d'atteindre le pouvoir. C'est une manière, finalement, assez... Pour moi, assez étonnante, effectivement, quand on lit l'histoire passée, mais je ne saurais...
Et alors, quelqu'un comme Souleyman le Magnifique, affublé de l'épithète magnifique ici, en Europe, mais il était connu aussi comme bâtisseur, il était aussi connu comme législateur. Mm-hmm. Ça sous-entend que la production du droit pouvait aussi émaner du souverain, et c'était un droit de type séculier. C'est-à-dire qu'on ne s'embarrassait pas de questions de charia, loi de Dieu, et que sais-je encore.
Oui, ça n'a pas été le cas sans doute à toutes les périodes non plus. Il y a pu y avoir aussi des périodes où, au contraire, les docteurs de la loi ont cherché un peu plus à imposer leur vue. Les grands souverains, peut-être, sont ceux qui ont réussi à contrôler ce pouvoir des savants religieux, à imposer leur propre capacité à donner des lois pour le bien de la cité, bien sûr. Je ne peux pas dire que ça a été le cas de tous les souverains non plus.
D'accord. Que diriez-vous à ceux qui disent qu'à un moment donné, sans vouloir commettre le moindre anachronisme ou paracronisme, qu'à un moment donné, il y avait une forme d'équilibre comme ça, très très fragile, entre le vizir, que l'on soit dans une configuration sultanienne ou califale, et le corps des oulémas, c'est-à-dire que la production du droit émanait effectivement des jurisconsultes et des oulémas, mais l'exercice lui-même était pratiqué par le vizir.
On peut le dire peut-être de manière assez schématique, oui, en tout cas il y avait la concurrence peut-être de... Pas la concurrence, moi j'ai tendance à voir ces oulémas comme une sorte de catégorie sociale qui pendant longtemps au Moyen-Âge, quand elle se constitue, et n'a pas tant de pouvoir que cela, et qui petit à petit va chercher à en obtenir un peu plus avec la faillite peut-être des gouvernants, la chute des régimes, voilà. Mais il est clair que jusque dans le Maghreb du 14e, 15e siècle, on voit effectivement des figures de conseillers, de vizirs ayant un pouvoir politique, de décision, de gouvernement, de production effectivement de tout ce qui concerne la police, le règlement du droit concret, appliqué. Mais effectivement,
là, vous parlez, pardon, je vous interromps, de la dynastie des Mérini, des Saadiens,
exemple. Oui, tout à fait. C'est pour aller dans votre sens hein, qu'il y a toujours un vizir ou des vizirs qui ont un pouvoir et qu'il y a également des oulémas qui je pense, gère plus localement des affaires plus locales. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, donc je ne peux pas donner d'éclairage très précis là-dessus.
Je vous presse avec mes questions. Si je me réfère à l'ouvrage du professeur au Collège de France, Paul Hazard, qui en 1935, et son livre « La crise de la conscience politique », il dit en gros qu'on est passé de Bossuet à Voltaire en l'espace de 35 ans, de 1680 à 1715, il n'y a pas l'équivalent en contexte islamique de ce genre de passage. Mais il n'y avait pas, à vous entendre, l'équivalent aussi d'un Bossuet qui haranguait en évoquant l'absolutisme et la monarchie de droit divin à ce moment-là. Ça n'est venu que plus tard, la question de monarchie de droit divin qu'on retrouve même de nos jours dans certaines monarchies des pays dits arabo-musulmans.
Oui, tout à fait. On ne voit pas cela, mais on n'a peut-être pas un Bossuet, mais on avait peut-être des petits prédicateurs ou sermonnaires locaux.
Des petits savonaroles.
Qui n'ont pas atteint la postérité. C'est-à-dire que ce discours-là ne pouvait pas avoir de place dans cette configuration du gouvernement arabo-musulman. Il y avait peut-être... Je pense que plutôt que d'exercer un comparatisme strict, il faut pas chercher de tels moments de rupture. Ce qui est intéressant avec l'art de gouverner, c'est qu'on voit qu'il y a des lieux de séparation du religieux et du politique, des espaces dans le discours qui indiquent qu'il y avait cette possibilité qui existait au long cours. Mais on ne va pas trouver un moment de séparation institutionnelle, par exemple.
Bien entendu, puisque cette séparation est un acquis de la modernité. Et encore une fois, il ne s'agit pas de commettre ou de forcer ou d'avoir une lecture de l'histoire qui n'est pas conforme à la réalité historiographique. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci. Merci beaucoup, Céline Snoussi. Vous nous avez apporté des éclairages très intéressants sur l'art de gouverner dans les contextes islamiques. Et nous apprenons avec vous que cette collusion entre le religieux et le politique n'était pas aussi systématique qu'on nous le fait savoir, et en tout cas pas d'une manière univoque tout au long de la fresque historique. Merci, chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam, et vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre, la prise de son a été assurée par Pierrick Charles et la réalisation est assurée par Philippe Baudouin. Mmh.